Le loup, les contes du chat perché de Marcel Aimé. Caché derrière la haie, le loup surveillait patiemment les abords de la maison. Il eut enfin la satisfaction de voir les parents sortir de la cuisine. Comme ils étaient sur le seuil de la porte, ils firent une dernière recommandation. « Souvenez-vous, disait-il, de n'ouvrir la porte à personne. Qu'on vous prie ou qu'on vous menace, nous serons rentrés à la nuit. » Lorsqu'il vit les parents, bien loin au dernier tournant du sentier, le loup fit le tour de la maison en boitant d'une patte. Mais les portes étaient bien fermées. Du côté des cochons et des vaches, il n'avait rien à espérer. Ces espèces n'ont pas assez d'esprit pour qu'on puisse les persuader de se laisser manger. Alors le loup s'arrêta devant la cuisine, posa ses portes sur le rebord de la fenêtre et regarda l'intérieur du logis. Delphine et Marinette jouaient aux osselets devant le fourneau. Marinette, la plus petite, qui était aussi la plus blonde, disait à sa sœur Delphine « Quand on n'est rien que deux, on ne s'amuse pas bien. On ne peut pas jouer à la ronde. » « C'est vrai. On ne peut jouer ni à la ronde, ni à la paume placée, ni au furet, ni à la courotte malade, ni à la mariée, ni à la balle fondue. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus amusant que de jouer à la ronde ou à la paume placée ? Ah, si on était trois !» Comme les petites lui tournaient le dos, le loup donna un coup de nez sur le carreau pour faire entendre qu'il était là. Laissant leur jeu, elles vinrent à la fenêtre en se tenant par la main. « Bonjour, dit le loup. Il ne fait pas chaud dehors. Ça pince, vous savez. » La plus blonde se mit à rire, parce qu'elle le trouvait drôle avec ses oreilles pointues et ce pinceau de poils hérissés sur le haut de la tête. Mais Delphine ne s'y trompa point. Elle murmura en serrant la main de la plus petite. « C'est le loup. »« Le loup, dit Marinette. Alors on a peur ?»« Bien sûr, on a peur. » Tremblantes, les petites se prirent par le cou, mêlant leurs cheveux blonds et leurs chuchotements. Le loup dut convenir qu'il n'avait rien vu d'aussi joli depuis le temps qu'il courait par bois et par plaine. Il en fut tout attendri. « Mais qu'est-ce que j'ai ? » pensait-il. « Voilà que je flageole sur mes pattes !» À force d'y réfléchir, il comprit qu'il était devenu bon tout d'un coup. Si bon et si doux qu'il ne pourrait plus jamais manger d'enfant. Le loup pencha la tête du côté gauche, comme on fait quand on est bon, et prit sa voix la plus tendre. « J'ai froid, dit-il, et j'ai une patte qui me fait bien mal. » Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je suis bon. Si vous vouliez m'ouvrir la porte, j'entrerais me chauffer à côté du fourneau et on passerait l'après-midi ensemble. Les petites se regardaient avec un peu de surprise. Elles n'auraient jamais soupçonné que le loup pût avoir une voix si douce. Déjà rassurée, la plus blonde fit un signe d'amitié. Mais Delphine, qui ne perdait pas si facilement la tête, eut au fait de se ressaisir. « Allez-vous-en, dit-elle, vous êtes le loup. »« Vous comprenez, ajouta Marinette avec un sourire. » « Ce n'est pas pour vous renvoyer, mais nos parents nous ont défendu d'ouvrir la porte, qu'on nous prie ou qu'on nous menace. » Alors le loup poussa un grand soupir. Ses oreilles pointues se couchèrent de chaque côté de sa tête. On voyait qu'il était triste. « Vous savez, dit-il, on raconte beaucoup d'histoires sur le loup. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. La vérité, c'est que je ne suis pas méchant du tout. » Il poussa encore un grand soupir, qui fit venir des larmes dans les yeux de Marinette. Les petites étaient ennuyées de savoir que le loup avait froid et qu'il avait mal à une patte. La plus blonde murmura quelque chose à l'oreille de sa sœur, en clignant de l'œil du côté du loup pour lui faire entendre qu'elle était de son côté, avec lui. Delphine demeura pensive, car elle ne décidait rien à la légère. « Il a l'air doux, comme ça, dit-elle, mais je m'y fie pas. Rappelle-toi le loup et l'agneau. L'agneau ne lui avait pourtant rien fait. » Et comme le loup protestait de ses bonnes intentions, elle lui jeta par le nez. « Et l'agneau, alors ? Oui, l'agneau que vous avez mangé. » Le loup n'en fut pas démonté. « L'agneau que j'ai mangé ? » dit-il. « Lequel ?» Il disait ça tout tranquillement, comme une chose tout simple et qui va de soi, avec un air et un accent d'innocence qui faisait froid dans le dos. « Comment ? Vous avez donc mangé plusieurs ? » s'écria Delphine. « Eh bien, c'est du joli. »« Naturellement que j'en ai mangé plusieurs. Je ne vois pas où est le mal, vous en mangez bien, vous. » Il n'y avait pas moyen de dire le contraire. On venait justement de manger du gigot au déjeuner du midi. « Allons, reprit le loup, vous voyez bien que je ne suis pas méchant. Ouvrez-moi la porte. On s'assiera en rond autour du fourneau et je vous raconterai des histoires. Depuis que le temps que je rôde au travers des bois et que je cours sur les plaines, vous pensez si j'en connais. Rien qu'en vous racontant ce qui est arrivé l'autre jour aux trois lapins de la lisière, je vous ferai bien rire. » Les petites se disputaient à voix basse. La plus bonne blonde était d'avis qu'on ouvrit la porte au loup, et tout de suite. On ne pouvait pas le laisser grelotter sous la bise avec une patte malade. Mais Delphine restait méfiante. Enfin, disait Marinette, tu ne vas pas lui reprocher encore les agneaux qu'il a mangés. Il ne peut pourtant pas se laisser mourir de faim.
Il n'a qu'à manger des pommes de terre, répliquait Delphine.
Marinette se fit pressante. Elle plaida la cause du loup avec tant d'émotion dans la voix et tant de larmes dans les yeux que sa sœur aînée finit par se laisser toucher. Déjà, Delphine se dirigeait vers la porte. Elle se ravisa dans un éclat de rire en haussant les épaules, dit à Marinette consternée.
Bon, tout de même, ce serait trop bête.
Delphine regarda le loup bien en face.
Dis donc, loup, j'avais oublié le petit chaperon rouge. Parlons-en un peu du petit chaperon rouge, voulez-vous ?
Le loup baissait la tête avec humilité. Ne s'attendait pas à celle-là. On l'entendit renifler derrière la vitre.
C'est vrai, voit-il, je l'ai mangé le petit chaperon rouge. Je vous assure que j'en ai eu du bien du remords si c'était à refaire.
Oui, oui, on dit toujours ça. Le loup se frappa la poitrine à l'endroit du cœur. Il avait une belle voix grave. Ma parole, si c'était à refaire, j'aimerais mieux mourir de faim.
Tout de même, soupira la plus blonde, vous avez mangé le petit chaperon rouge.
Je ne vous dis pas, consentit le loup, je l'ai mangé, c'est entendu.
C'est un péché de jeunesse. Il y a longtemps, n'est-ce pas ? À tout péché, miséricorde.
Puis si vous saviez les tracas que j'ai eus à cause de cette petite. Tenez, on est allé jusqu'à dire que j'avais commencé par manger la grand-mère.
Eh bien, c'est pas vrai du tout.
Ici, le loup s'est mis à ricaner malgré lui, et probablement sans bien se rendre compte qu'il ricanait.
Je vous demande un peu manger de la grand-mère, alors que j'avais une petite fille bien fraîche qui n'attendait pour mon déjeuner.
Je suis pas si bête. Au souvenir de ce repas de chair fraîche, le loup ne put se tenir de passer plusieurs fois sa grande langue sur ses babines, découvrant de longues dents pointues qui n'étaient pas pour rassurer les deux petites.
« Loup, s'écria Delphine, vous êtes un menteur. Si vous aviez tous les remords que vous dites, vous ne vous lécheriez pas ainsi les babines. »
Le loup était bien penaud de s'être pourléché au souvenir d'une gamine potelée et fondante sous la dent. Mais il se sentait si bon, si loyal, qu'il ne voulut pas douter de lui-même. « Pardonnez-moi, dit-il, c'est une mauvaise habitude que je tiens de famille, mais ça veut rien dire. »«
Tant pis pour vous si vous êtes mal élevé, déclara Delphine.
« Ne dites pas ça, soupira le loup, j'ai tant de regrets. »«
C'est une habitude de famille de manger les petites filles. Vous comprenez quand vous promettez de ne jamais manger d'enfants ? » C'est à peu près comme si Marinette promettait de ne plus jamais manger de dessert.
Marinette rougit, et le loup essaya de protester.
« Mais puisque je vous jure... »«
N'en parlons plus, et passez votre chemin, vous vous réchaufferez en courant. »
Alors le loup se mit en colère, parce qu'on ne voulait pas croire qu'il était bon. « C'est quand même un peu fort, criait-il. On ne veut jamais entendre la voix de la vérité, ça vous dégoûte d'être honnête.
Je prétends qu'on n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés comme vous le faites. Et vous pouvez dire que si jamais je remange de l'enfant, ce sera par votre faute. »
En l'écoutant, les petites ne songeaient pas beaucoup d'inquiétude au fardeau de leur responsabilité et au remords qu'elles se préparaient peut-être. Mais les oreilles du loup dansaient si pointues, ses yeux brillaient d'un éclair si dur, et ses crocs entre les babines retroussées qu'elles demeuraient immobiles de frayeur.
Le loup comprit qu'il ne gagnerait rien par des paroles d'intimidation. Il demanda pardon de son emportement et essaya de la prière. Pendant qu'il parlait, son regard se voilait de tendresse, ses oreilles se couchaient, et son nez qu'il appuyait au carreau lui faisait une gueule aplatie, douce comme un mufle de vache.
« Tu vois bien qu'il n'est pas méchant, » disait la petite blonde.
« Peut-être, » répondait Delphine, « peut-être. » Comme la voix du loup devenait suppliante, Marinette n'y tient plus et se dirigea vers la porte. Delphine, effrayée, la retient par une boucle de ses cheveux. Il y eut des gifles données, des gifles rendus. Le loup s'agitait avec désespoir derrière la vitre, disant qu'il aimait mieux s'en aller que d'être le sujet d'une querelle entre les deux plus jolies blondes qu'il eût jamais vues.
Et en effet, il quitta la fenêtre et s'éloigna, secoué par de grands sanglots.
« Quel malheur, songeait-il, moi qui suis si bon, si tendre. Elles ne veulent pas de mon amitié.
Je serais devenue meilleure encore. Je n'aurais même plus mangé d'agneau. »
Cependant, Delphine regardait le loup qui s'en allait, clochant sur trois pattes, transi par le froid et par le chagrin. Prise de remords et de pitié, elle cria par la fenêtre.
« Loup, on n'a plus peur, venez vite vous chauffer !»
Mais la plus blonde avait déjà ouvert la porte et courait à la rencontre du loup.
« Mon Dieu !» soupirait le loup. « Comme c'est bon d'être assis au coin du feu. Ah, il n'y a rien, vraiment rien de meilleur que la vie en famille, je l'avais toujours pensé. »
Les yeux humides de tendresse, il regardait les petites qui se tenaient timidement à l'écart. Après qu'il eut léché sa patte endolorie, exposé son ventre et son dos à la chaleur du foyer, il commença de raconter des histoires. Les petites s'étaient rapprochées pour écouter les aventures du renard, de l'écureuil, de la taupe ou des trois lapins de la lisière. Il y en avait de si drôles que le loup dut les redire deux et trois fois.
Marinette avait déjà pris son ami par le cou, s'amusant à tirer ses oreilles pointues, à le caresser à lisse-poil, à rebrousse-poil. Delphine fut un peu longue à se familiariser. Et la première fois qu'elle fourra par manière de jeu sa petite main dans la gueule du loup, elle ne put se défendre de remarquer. « Ah, comme vous avez de grandes dents !» Le loup eut l'air si gêné que Marinette lui cacha la tête dans ses bras. Par délicatesse, le loup ne voulut rien dire de la grande faim qu'il avait au ventre. « Ce que je peux être bon, songeait-il avec délice, ce n'est pas croyable. » Après qu'il lui racontait beaucoup d'histoires, les petites lui proposèrent de jouer avec elle. « Jouer ?» dit le loup. « Mais c'est que je ne connais pas de jeu, moi. » En un moment, il lui apprit à jouer à la main chaude, à la ronde, à la paume placée et à la courotte malade. Il chantait avec une assez belle voix de basse des couplets de Compère Guillery ou La Tour prend garde. Dans la cuisine, c'était un vacarme de bousculades, de cris, de grands rires et de chaises renversées. Il n'y en avait pas la moindre gêne entre les trois amis qui se tutoyaient comme si c'était toujours connu. « Loup, c'est toi qui t'y colle !»« Non, c'est toi, t'as bougé !»« Elle a bougé !»« Un gage pour le loup !» Le loup n'avait jamais ri tant de sa vie. Il riait à s'en décrocher la mâchoire. « J'aurais jamais cru que c'était si amusant de jouer, » disait-il. « Quel dommage qu'on ne puisse pas jouer comme ça tous les jours. » « Mais le loup, » répondaient les petites, « tu reviendras. Nos parents s'en vont tous les jeudis après-midi. Tu guetteras leur départ, tu viendras taper au carreau, comme tout à l'heure. » Pour finir, on joua au cheval. C'était un beau jeu. Le loup faisait le cheval, la plus blonde était montée à califourchon sur son dos, tandis que Delphine le tenait par la queue et menait l'attelage à fond de train au travers des plis de chaises. La langue pendante, la gueule fendue jusqu'aux oreilles, essoufflée par la course et par le rire qui lui faisait saillir les côtes, le loup demandait parfois la permission de respirer. « Pousse, pousse !» disait-il d'une voix entrecoupée. « Ah, oh, laissez-moi rire, j'en peux plus !»« Ah non, laissez-moi rire !» Alors, Marinette descendait de cheval. Delphine lâchait la queue du loup, assis par terre, on se laissait aller à rire jusqu'à s'étrangler. La joie prit fin le soir quand il fallut songer au départ du loup. Les petites avaient envie de pleurer, et la plus blonde suppliait. « Loup, reste avec nous, on va jouer encore, nos parents ne diront rien, tu verras !»« Ah non, » disait le loup, « les parents, c'est trop raisonnable !» « Ils ne comprendraient jamais que le loup ait pu devenir bon. Les parents, je les connais. »« Oui, » approuva Delphine, « il vaut mieux ne pas s'attarder. J'aurais peur qu'il t'arrive quelque chose. » Les trois amis se donnèrent rendez-vous pour le jeudi suivant. Il y eut encore des promesses et des grandes effusions. Enfin, la plus blonde lui eut noué un ruban blanc autour du cou. Et le loup gagna la campagne et s'enfonça dans les bois. Sa patte endolorie le faisait encore souffrir. Mais songeant au prochain jeudi qui le ramènerait auprès des deux petites, il fredonnait, sans souci de l'indignation des corbeaux somnolents dans les plus hautes branches. « Compère Guillery, te laisseras-tu mourir ?»« Compère Guillery !» En rentrant à la maison, les parents reniflèrent sur le seuil de la cuisine. « Nous sentons ici comme une odeur de loup, » dirent-ils. Les petites se crurent obligées de mentir et de prendre un air étonné, ce qui ne manque jamais d'arriver quand on reçoit le loup en cachette de ses parents. « Comment vous pouvez-vous sentir une odeur de loup ?» protesta Delphine. « Si le loup était entré dans la cuisine, nous serions mangés toutes les deux. »« C'est vrai, » accorda son père, « je n'y avais pas songé, les loups vous auraient mangé. » Mais la plus blonde, qui ne savait pas dire deux mensonges d'affilée, fut indignée qu'on osa parler du loup avec autant de perfidie. « C'est pas vrai, » dit-elle en tapant du pied, « le loup ne mange pas les enfants, c'est pas non plus vrai qu'il soit méchant, la preuve... » Heureusement que Delphine lui donna un coup de pied dans les jambes, sans quoi elle allait tout dire. Là-dessus, les parents entreprirent tout un long discours, où il était surtout question de la voracité du loup. La mère voulut en profiter pour conter une fois de plus l'aventure du petit chaperon rouge. Mais au premier mot qu'elle dit, Marinette l'arrêta. « Tu sais, maman, les choses ne sont pas du tout passées comme tu crois. Le loup n'a jamais mangé la grand-mère. Tu penses bien qu'il n'allait pas se charger l'estomac juste avant de déjeuner une petite fille bien fraîche. » « Et puis, » ajouta Delphine, « on ne peut pas lui en vouloir éternellement au loup. C'est une vieille histoire, un péché de jeunesse. Et à tout péché, miséricorde. Le loup n'est plus ce qu'il était dans le temps. On n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés. » Les parents n'en croyaient pas leurs oreilles. Le père coupa court à ce plaidoyer scandaleux entretenant ses filles de tête en l'air. Puis s'appliqua à démontrer par des exemples bien choisis que le loup resterait toujours le loup, qu'il n'y avait point de bon sens à espérer de le voir jamais s'améliorer, et que s'il faisait un jour figure d'animal débonnaire, il en serait encore plus dangereux. Tandis qu'il parlait, les petites songeaient aux belles parties de cheval et de paume glacée qu'elles avaient faites en cet après-midi, et à la grande joie du loup qui riait gueule ouverte jusqu'à en perdre le souffle. « On voit bien, concluait le père, que vous n'avez jamais eu affaire au loup. » Alors, comme la plus blonde donnait du coude à sa sœur, les petites éclatèrent d'un grand rire à la barbe de leur père. On les coucha sans souper pour les punir de cette insolence. Mais longtemps après, qu'on les eut bordées dans leur lit, elles riaient encore de la naïveté de leurs parents. Les jours suivants, pour distraire l'impatience où elles étaient de revoir leur amie, et avec une intention ironique qui n'était pas sans agacer leur mère, les petites imaginèrent de jouer au loup. La plus blonde chantait sur deux notes les paroles consacrées. « Promenons-nous le long du bois, pendant que le loup y est pas. Louillais-tu? M'entends-tu? Quoi fais-tu ?» Et Delphine, cachée sous la table de la cuisine, répondait « Je mets ma chemise !» Marinette posait la question autant de fois qu'il était nécessaire au loup pour passer une à une toutes les pièces de son harnachement, depuis les chaussettes jusqu'à un grand sabre. Alors il se jetait sur elle et la dévorait. Tout le plaisir du jeu était dans l'imprévu, car le loup n'attendait pas toujours d'être prêt pour sortir du bois. Il lui arrivait aussi bien de sauter sur sa victime alors qu'il était en manche de chemise, ou n'ayant même pour tout vêtement qu'un chapeau sur la tête. Les parents n'appréciaient pas du tout l'agrément du jeu. Et excédés d'entendre cette rengaine, ils l'interdirent le troisième jour, donnant pour prétexte qu'elle leur cassait les oreilles. Bien entendu, les petites ne voulurent pas d'autre jeu. Et la maison demeura silencieuse jusqu'au jour du rendez-vous. Le loup avait passé toute la matinée à laver son museau, à lustrer son poil et à faire bouffer la fourrure de son cou. Il était si beau que les habitants du bois passèrent à côté de lui sans le reconnaître d'abord. Lorsqu'il gagna la plaine, deux corneilles qui bâillaient au clair de midi, comme elles font presque toutes après déjeuner, lui demandèrent pourquoi il était si beau.
« Je vais voir mes amis, » dit le loup avec orgueil. « Elles m'ont donné rendez-vous pour le début de l'après-midi. »«
Elles doivent être bien belles que tu aies fait si grande toilette. »«
Je crois bien, vous n'en trouverez pas sur toute la plaine qui soit aussi blonde. »
Les corneilles en bâillaient maintenant d'admiration. Mais une vieille pige à cassière qui avait écouté la conversation ne put s'empêcher de ricaner.
« Lou, je ne connais pas tes amis, mais je suis sûre que tu auras su les choisir bien dodus et bien tendres, ou je me trompe beaucoup. »«
Taisez-vous, Péronnelle !» s'écria le loup en colère. « Voilà pourtant comment vous bâtit une réputation sur des commérages de vieilles pies. Heureusement, j'ai ma conscience pour moi. » En arrivant à la maison, le loup n'eut pas besoin de cogner au carreau. Les deux petites l'attendaient sur le pas de la porte. On s'embrassa longuement et plus tendrement encore que la dernière fois, car une semaine d'absence avait rendu l'amitié impatiente.
« Ah, Lou, disait la plus blonde, la maison était triste cette semaine. On a parlé de toi tout le temps. »«
Tu sais, Lou, tu avais raison. Nos parents ne veulent pas croire que tu puisses être bon. »«
Ça ne m'étonne pas si je vous disais que tout à l'heure une vieille pie. Et pourtant, Lou, on t'avait bien défendu. Même quand nos parents nous ont envoyés au lit sans souper.
Et dimanche, on nous a défendu de jouer au loup. » Les trois amis avaient tant à se dire qu'avant de songer au jeu, ils s'assirent à côté du fourneau.
Le loup ne savait plus où donner de la tête. Les petites voulaient savoir tout ce qu'il avait fait dans la semaine, s'il n'avait pas eu froid, si sa patte était bien guérie, s'il avait rencontré le renard, la bécasse, le sanglier.
« Loup, disait Marinette, quand viendra le printemps, tu nous emmèneras dans les bois, loin, là où il y a toutes sortes de bêtes. Avec toi, on n'aura pas peur.
Printemps, ma mignonne, vous n'aurez rien à craindre dans les bois. D'ici là, j'aurai si bien prêché les compagnons de la forêt que les plus hargneux seront devenus doux comme des filles. Tenez, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré le renard, qui venait de saigner tout un poulailler. Je lui ai dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait changer de vie. Je voulais sermonner d'importance. Et lui qui fait tant le malin d'habitude, savez-vous ce qu'il m'a répondu ?
Lou, je ne demande qu'à suivre ton exemple. Nous en reparlerons un peu plus tard. Et quand j'aurai eu le temps d'apprécier toutes tes bonnes œuvres, je ne tarderai plus à me corriger. Voilà ce qu'il m'a répondu, tout renard qu'il est.
Tu es si bon, murmura Delphine. Oh oui, je suis bon, il n'y a pas à dire le contraire. Pourtant, voyez-vous, ce que c'est, vos parents ne le croiront jamais. Ça fait de la peine quand on y pense. » Pour dissimuler la mélancolie de cette réflexion, Marinette proposa une partie de cheval. Le loup se donna au jeu avec plus d'entrain encore que le jeudi précédent. La partie de cheval terminée, Delphine demanda « Loup, si on jouait au loup ?» Le jeu était nouveau pour lui. On lui en expliqua les règles et tout naturellement, il fut désigné pour être le loup. Tandis qu'il était caché sous la table, les petites passaient et repassaient devant lui en chantant le refrain. « Promenons-nous le long du bois, pendant que le loup n'y est pas. Louillais-tu? M'entends-tu? Que fais-tu ?» Le loup répondait en se tenant les côtes, la voix étranglée par le rire. « Je mets mon caleçon !» Toujours riant, il disait qu'il mettait sa culotte, puis ses bretelles, son faux col, son gilet. Quand il en vint à enfiler ses bottes, il commença d'être sérieux. « Je boucle mon ceinturon !» dit le loup, et il éclata d'un rire bref. Il se sentait mal à l'aise et une angoisse lui étreignait la gorge. Ses ongles grattèrent sur le carrelage de la cuisine. Devant ses yeux luisants passaient et repassaient les jambes des deux petites. Un frémissement lui courut sur l'échine, ses babines se froncèrent. « Louillais-tu? M'entends-tu? Que fais-tu ?»« Je prends mon grand sabre, » dit-il d'une voix rauque. Et déjà les idées se brouillaient dans sa tête. Il ne voyait plus les jambes des fillettes, il les humait.
« Louillais-tu? M'entends-tu? Que fais-tu ?»«
Je monte à cheval et je sors du bois !»
Alors le loup poussa un grand hurlement, ouh, fit un grand bond hors de sa cachette, la gueule béante et les griffes dehors. Les petites n'avaient pas encore eu le temps de prendre peur qu'elles étaient déjà dévorées. Heureusement, le loup ne savait pas ouvrir les portes. Il demeura prisonnier dans la cuisine. En rentrant, les parents n'eurent qu'à lui ouvrir le ventre pour délivrer les deux petites. Mais au fond, ce n'était pas de jeu. Delphine et Marinette lui en voulaient un peu de ce qui les eût mangés sans plus d'égards. Mais elles avaient si bien joué avec lui qu'elles prièrent les parents de le laisser s'en aller. On lui recousit le ventre, solidement, avec 2 mètres d'une bonne ficelle frottée d'un morceau de fif et une grosse aiguille à matelas. Petite pleurait parce qu'il avait mal, mais le loup disait en retenant ses larmes. « Je l'ai bien mérité, allez, vous êtes encore trop bonne de me plaindre. Je vous jure qu'à l'avenir, on ne me prendra plus à être aussi gourmand. Et d'abord, quand je verrai des enfants, je commencerai par me sauver. » On croit que le loup a tenu parole. En tout cas, l'on n'a pas entendu dire qu'il ait mangé de petites filles depuis son aventure avec Delphine et Marinette. Voilà, merci de votre écoute.